11h sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, alors confinera, confinera pas. On se posait la question hier, eh bien nous le savons maintenant. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'attarder aujourd'hui encore sur les virus dans cette émission, je dis bien les virus au pluriel, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un expert en virus, est-ce qu'on peut dire ça? Bonjour Philippe Roingeard.
Bonjour.
Alors vous êtes à la tête, vous êtes directeur de l'unité mixte de recherche INSERM U1259, unité MAVIVE entre autres. Vous êtes également docteur en pharmacie. Alors puisqu'on est ici sur une radio étudiante, peut-être que vous voulez commencer par revenir sur votre parcours pour nos auditeurs.
Ah, volontiers. Oui, j'ai fait des études de pharmacie. D'ailleurs, je les ai faites ici à Tours. Et j'avais envie de faire de la recherche, moi, dans des labos pharmaceutiques, de la recherche biomédicale, on va dire, sans savoir au départ ce qui allait m'intéresser. Et puis, quand j'ai terminé mes études, je me suis tourné vers la virologie, parce que c'était un domaine quand même émergent. Et j'ai fait un master, une thèse d'université, puis je suis parti ensuite à l'étranger, aux États-Unis, pendant près de 3 ans. Puis on m'a proposé de revenir à Tours, on m'a proposé un poste, donc je suis revenu. Et je ne regrette pas, parce qu'on peut faire plein de choses bien aussi à Tours. Et puis, je suis assez passionné par la recherche sur les virus, et puis effectivement, avec ce qui se passe actuellement, ça renforce effectivement, je pense, cet attrait pour ce domaine scientifique qui est vraiment passionnant. Alors, je sais bien, il y a cette crise sanitaire terrible, bien évidemment, mais les virus sont vraiment des agents infectieux fascinants, et moi, c'est une recherche vraiment que je trouve extrêmement, extrêmement intéressante.
Alors, vous expliquiez à l'instant que, quand vous étiez étudiant, c'était un secteur, en tout cas une discipline qui se développait, enfin, qui était peut-être moins connue qu'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous dire en fait quelles ont été les grandes étapes de développement de la virologie?
D'abord, j'ai eu un professeur en pharmacie passionnant qui s'appelait Philippe Maupas, qui était vraiment quelqu'un qui venait faire un cours les mains dans les poches, sans notes, sans rien. Il n'y avait pas de PowerPoint à l'époque, de diapo, mais on l'écoutait tous les yeux écarquillés, tellement c'était un enseignant formidable. C'était un grand chercheur aussi, hein. Il avait mis au point ici à Tours le premier vaccin contre l'hépatite B, ça a été une grande première mondiale. Donc c'était quelqu'un vraiment qui avait une grande aura scientifique. Et donc moi déjà la virologie m'a intéressé à cause de ça, à cause de quelqu'un, d'une rencontre quoi, de quelqu'un qui était vraiment un professeur passionnant. Et puis quand j'ai fini mes études de pharmaciste et on commençait déjà à parler d'un virus nouveau c'était à l'époque le virus du sida, hein, donc il a commencé déjà à y avoir des articles sur un agent infectieux qu'on connaissait pas bien qui infectait les homosexuels masculins, et donc tout ça a été un peu intéressant. On voyait que la virologie allait évoluer parce qu'il y avait des choses nouvelles à découvrir, et ça m'a aussi conforté dans ce choix d'aller faire de la virologie. C'est pour ça que je me suis tourné vers le laboratoire de virologie à l'époque, qui était dirigé par Alain Goudot, parce que malheureusement Philippe Maupas était décédé entre-temps. Et j'ai fait un master, une thèse, et ça m'a projeté ensuite vers ce qu'on appelle un post-doctorat aux États-Unis, où j'ai pu aussi apprendre des nouvelles choses et conforter ce choix de chercheurs dans ce domaine. Et puis, comme je vous le dis, je suis revenu ensuite à Tours, puis j'ai franchi toutes les étapes pour devenir professeur. Donc là, j'étais assistant, maître de conférence, puis professeur. Et puis, finalement, au bout d'un temps, c'est moi qui ai pris la direction d'unité de recherche que vous avez citée tout à l'heure. Et puis, maintenant, je dirige cette unité qui est devenue une unité mixte université et INSERM entre-temps, ce qui nous permet d'accueillir des chercheurs à temps plein à INSERM. C'est aussi très important. Et on est maintenant plus d'une trentaine à travailler dans cette équipe sur les virus, sur différents virus.
Alors, je crois que c'est hépatite B, hépatite C et VIH.
Oui, au départ, c'est ça, je dirais, c'est notre cœur de métier. C'est vraiment, Depuis Maupas, hein, qui avait travaillé sur l'hépatite B, après ensuite il y a eu l'hépatite C qui est arrivée, un virus nouvellement identifié, voilà encore un exemple. Le VIH, bien sûr, ça c'est les virus sur lesquels on travaille depuis très longtemps. Et puis depuis quelque temps, on avait déjà commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle les virus émergents. Donc on a déjà développé maintenant depuis 2-3 ans des programmes de recherche sur le virus Zika, qui est un virus émergent ou plutôt réémergent, parce qu'on le connaissait ce virus, mais par contre, voilà, on le connaissait dans des lieux bien contraints, et là on voit qu'il a été capable de diffuser sur la planète. Des virus comme le chikungunya aussi, ça aussi un exemple de virus réémergent. Et puis quand est arrivé le Covid-19, évidemment, en début d'année, bah, forcément on s'est intéressé à ce virus-là aussi. On a mis le virus en culture au laboratoire. Et on a développé des programmes de recherche sur ce nouveau virus. Comme je vous le disais, c'est quelque chose d'absolument fascinant pour nous, les virologistes, d'avoir un agent infectieux aussi important en termes de santé publique. Et donc, on a développé des travaux sur ces virus-là. Donc, on s'est diversifié dans notre panel de virus sur lesquels on travaille, si je peux dire les choses comme ça.
Alors comment ça marche? Est-ce que vous avez une collection de virus prête à être étudiée? Est-ce qu'il y a d'autres laboratoires qui vous en envoient? Comment ça marche?
Alors, on échange beaucoup avec d'autres laboratoires, effectivement. Après, vous voyez, sur un exemple comme le Covid-19, bah, d'abord, il fallait effectivement arriver à le mettre en culture, ce qu'on a fait à partir. C'est-à-dire, un virus, par définition, ça ne se reproduit pas tout seul. C'est un, ce qu'on dit, on appelle ça un parasite intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire que pour qu'il puisse se multiplier, il faut lui fournir des cellules. Il faut qu'il rentre dans les cellules, qu'il se multiplie dedans et que, voilà, il ressorte des virus. On dit qu'on cultive le virus parce qu'on le fait se multiplier sur des cellules. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a fait assez rapidement grâce à des prélèvements de patients donc hospitalisés ici au CHU, parce que c'est un virus qui est difficile de faire voyager quand même, tellement il est infectieux. Donc là, c'est pas le genre de choses qu'on s'échange, non. On pourrait le faire, mais c'est quand même pas très simple. Et pour le cultiver, on a fait ça dans un laboratoire de sécurité L3, hein, c'est des laboratoirs avec des systèmes de sas, de différence de pression, pour qu'il n'y ait pas du tout d'air qui sorte vers l'extérieur. Tout l'air est filtré. Donc on ne peut pas faire ça n'importe où. On est d'ailleurs le seul laboratoire, je dirais, dans toute la région centre, à avoir mis en culture ce virus ici, donc en région, parce qu'on avait cette capacité d'un laboratoire L3, la proximité avec le CHU pour les prélèvements de patients. Donc on s'échange beaucoup de matériel, mais on ne s'échange pas forcément les virus, non, parce que ça ne voyage pas très bien, c'est d'un point de vue réglementaire, c'est pas simple.
Voilà, donc halte à la psychose, hein. J'imagine qu'il n'y a pas d'eau usée qui s'en vont comme ça du laboratoire partout, parce que peut-être que certains auditeurs ou certaines personnes peuvent craindre ça.
Alors ça, c'est le principe d'un laboratoire L3, c'est qu'il est absolument sécurisé, y compris sur l'air, sur l'eau. Rien ne sort de ce laboratoire qui soit encore infectieux, quoi qu'il arrive. Tout est parfaitement dégradé, on est contrôlé, on peut rassurer les auditeurs, on est très contrôlé, il y a une réglementation très importante là-dessus pour qu'effectivement, on travaille en toute sécurité, à la fois pour ceux qui manipulent dans ce laboratoire L3, et puis tout l'environnement extérieur.
Voilà, donc on peut le dire, hein, évidemment que MAVIV, en tout cas cette unité de recherche, n'a aucun intérêt à ce que des agents infectieux sortent du laboratoire.
Ah ben non, nous on fait tout pour les combattre. Hein. On travaille sur la mise au point de vaccins, de traitements antiviraux. Donc non, non, nous notre objectif c'est de travailler sur ces virus pour répondre à des questions de santé publique et à effectivement améliorer les traitements des gens qui sont infectés, voire mettre au point effectivement des approches préventives comme la mise au point de vaccins.
Alors là, on est dans une situation de crise, hein, je pense qu'on peut dire ça. Donc, comment ça se passe en temps normal? Parce que la compétence de ce laboratoire MAVIV est reconnue, point de vue national, même international. Alors, est-ce que les différentes instances vous passent commande de recherche, vous financent des recherches? Voilà, est-ce que c'est différent quand on n'est pas dans une période de crise? Comment ça se passe?
Alors, c'est une très bonne question. Depuis quelque temps, la recherche a beaucoup évolué. On fonctionne beaucoup sur projet. C'est-à-dire que le laboratoire reçoit une dotation budgétaire à la fois de l'université et de l'INSERM, puisqu'on a les deux tutelles, mais qui ne nous permet pas de développer beaucoup de projets de recherche. Ça assure, je dirais, le fonctionnement un peu de routine du laboratoire, comme la maintenance des appareils. Bon, après, l'université, l'INSERM paye les salaires des gens qui travaillent, ce n'est pas négligeable non plus, ça représente aussi quelque chose d'important. Mais par contre, pour tout ce qui est fonctionnement, c'est-à-dire le développement lui-même du projet, l'achat des réactifs, l'achat des machines lorsqu'on en a besoin, tout ça c'est sur projet. Et donc on est financé lorsqu'on répond à un appel d'offres sur tel ou tel sujet. On écrit un projet scientifique, ça nous prend beaucoup de temps, bien sûr, on y réfléchit parce que pour se donner des bonnes chances qu'il soit financé, il faut qu'il soit bien, faut que la question soit pertinente, il faut que ça soit bien écrit, bien rédigé. Et il est soumis effectivement à une évaluation et le projet est retenu ou pas d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on est financé. C'est pas vraiment une commande, c'est une proposition de notre part pour dire écoutez, nous on vous propose ce projet-là à telle ou telle instance. Et cette instance décide de vous le financer ou pas. Et c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant beaucoup. Ça permet de payer aussi les salaires de gens qui ne sont pas des titulaires, mais qui sont là sur contrat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Des jeunes chercheurs, ce qu'on appelle des post-doctorants, des gens qui viennent juste de finir de la thèse. Et avant de pouvoir candidater sur un poste de titulaire, qui font souvent comme ça, quelques années après la thèse, de travaux de recherche pour amplifier leur curriculum vitae scientifique.
Mais c'est très compliqué alors, parce que peut-être qu'il y a des instances qui ne voient pas dans l'immédiat la pertinence d'un projet et qui se révèlent, dans le cas d'une situation comme celle que l'on vit aujourd'hui, peut-être qu'il y a des regrets de dire « bah mince, peut-être qu'on aurait dû financer tel projet ». Enfin,
c'est aussi une très bonne question, mais ça a suscité beaucoup de débats d'ailleurs depuis le mois de janvier, parce que je connais quelques collègues, notamment du côté de Marseille, qui travaillent sur les coronavirus et qui ont expliqué à la presse que pendant des années, ils avaient déposé des projets de recherche qui n'ont pas été financés, alors que ces projets de recherche, ils auraient été très utiles pour répondre à certaines questions que maintenant, pour lesquelles maintenant on souhaite avoir des réponses, puisque c'est des gens qui travaillaient sur les coronavirus. Donc, c'est effectivement une question compliquée. Il faut que les agences de financement de la recherche se préoccupe de financer une assez grande diversité de projets. Les coronavirus, c'est un excellent exemple. Hein. Quand la crise sanitaire est survenue, il y a eu effectivement beaucoup d'argent qui a été mis pour la recherche sur ces virus. Alors, je ne vais pas dire que c'est trop tard, non, ça serait faux. Mais c'est vrai que certains peuvent penser qu'on aurait pu, sans doute, s'en préoccuper avant, oui. D'une manière globale, il y a certainement, dans un pays comme le nôtre, pas assez d'argent pour la recherche. Alors, je sais que le gouvernement y réfléchit, essaye de voir un peu comment on peut modifier les choses. Mais ce fonctionnement sur projet, il a ses limites, parce qu'il y a malheureusement plein de bons projets qui ne sont pas financés, plein de projets scientifiques intéressants, pertinents, qui ne peuvent pas être financés par manque de moyens.
Voilà, on imagine déjà qu'il y a plusieurs temps dans la recherche, parce que sur les projets qui anticipent, enfin les projets d'anticipation, c'est-à-dire une équipe de recherche. Là, par exemple, on parle des coronavirus, mais donc c'est des gens qui ont anticipé sur ce qui pourrait arriver. Donc, c'est-à-dire de trouver des solutions, essayer de trouver des vaccins pour anticiper sur une catastrophe sanitaire. Et puis il y a aussi le temps de l'urgence, donc de dire bah, trop tard, la catastrophe est là, donc il faut quand même qu'on essaie de trouver des réponses. Donc on voit qu'il y a peut-être un temps qui est à la fois le temps long et le temps très court. Comment on jongle entre ces différents temps dans la recherche ?
C'est assez compliqué, effectivement. C'est vrai que cette crise sanitaire, personne ne pouvait la prévoir. Par contre, ce qu'on savait, c'est qu'un événement comme ça, de survenu de ce qu'on appelle un franchissement de barrière d'espèce, c'est-à-dire un virus de chauve-souris qui va passer à l'homme, sans doute avec un animal intermédiaire, dont tout le monde sait, que tout le monde a entendu parler du pangolin. Pour nous, les virologistes, finalement, ça n'a pas été tant une surprise, parce que ça s'était déjà produit. Ça s'était déjà produit, il y avait déjà eu le SARS-CoV, hein, c'était il y a presque 20 ans. Après, il y a eu le MERS au Moyen-Orient, Dans les deux cas, c'était cette problématique d'un franchissement de barrière d'espèce, d'un virus de chauve-souris qui va passer chez l'homme. Donc, finalement, c'est la troisième fois que ça se produit. Par contre, ce qu'on n'avait pas du tout prévu, c'était l'intensité de cette diffusion à l'échelle planétaire, cette transmission interhumaine extrêmement importante du nouveau coronavirus. Ça, par contre, c'était pas du tout prévu. Mais on pouvait penser effectivement que ça se reproduirait à nouveau, c'était déjà produit deux fois. C'est là où je pense qu'il y avait quand même sans doute une faiblesse dans les agences de financement de la recherche, de ne pas avoir... Alors c'est un peu facile de dire ça maintenant, j'en suis bien conscient, parce que, comme je vous le disais à l'instant, on ne pouvait pas prévoir que ça ait une telle importance. Mais quand même, on savait que ça pouvait exister, et donc il y a sans doute eu des failles dans le fait que des projets comme ceux qui avaient été déposés par... Les collègues qui travaillent sur les coronavirus n'avaient pas été financés jusque-là. Oui. Et sans doute. Et alors après, pour aller au bout des questions que vous m'avez posées, il y a eu une réaction quand même. Il y a eu une réaction très très forte de tous les gouvernements, d'ailleurs pas qu'en France, hein, pour effectivement mettre rapidement des moyens, un raccourcissement vraiment des délais d'évaluation des projets pour financer quand même ce qui paraissait plus pertinent à faire dans l'urgence. Et répondre du mieux qu'on peut à cette crise sanitaire. Donc ça, c'est à la fois finalement dans les labos publics et puis aussi dans le privé. Il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques privés qui ont développé des programmes de recherche, notamment pour des vaccins, bien sûr. Donc il y a eu une énorme réaction de la communauté scientifique. Il n'y a pas eu de précédent à ça, mais il faut dire que la crise sanitaire a un tel impact économique que les chercheurs n'avaient jamais vu ça, une telle intensité d'une démarche comme ça pour répondre à cette crise sanitaire et mettre en place des projets de recherche innovants pour essayer de la contrer. On n'avait jamais vu l'équivalent.
Ouais, bon, on voit aussi à quel point c'est compliqué, parce qu'on peut se dire des financeurs, ils sont peut-être dans un temps présent, des équipes de recherche, elles sont... entre l'anticipation, donc l'après, enfin le futur, et aussi dans l'urgence. Donc c'est difficile de faire dialoguer peut-être ces espaces-temps qui sont proches, mais qui peut-être se croisent pas toujours. Donc comment on peut intéresser davantage, parce qu'il est évidemment qu'ils s'y intéressent, mais les financeurs, comment on peut faire croiser en fait de façon plus évidente le monde de la recherche et celui des diverses instances?
Je pense que la crise économique fait qu'il y a une prise de conscience importante des gouvernements en France et ailleurs. Je pense que il va y avoir une attention particulière pour la recherche sur les maladies infectieuses. Ça ne peut pas être autrement. Évidemment, on a le coronavirus, mais il n'y a pas que ça. On parlait tout à l'heure du virus Zika, par exemple. On voit bien que ça a créé aussi des crises sanitaires importantes ces dernières années, pas à l'échelle de ce qu'on vit avec le coronavirus, mais quand même. On sait que c'est des virus pour lesquels l'épidémiologie va se modifier progressivement au regard des changements climatiques, avec les moustiques qui sont vecteurs de ces virus qui sont en train progressivement de remonter vers le nord. Donc je pense que tout ça, finalement... va faire qu'il va y avoir un autre regard des agences de financement, du gouvernement, pour prendre tout ça en compte. Pour vous donner un exemple, on a en France une agence de moyens pour la recherche sur les virus qui s'appelle l'ANRS. C'était au départ l'Agence nationale de recherche sur le sida. Et puis, petit à petit, elle s'est étendue aux hépatites virales, hépatite B, hépatite C. Donc nous, c'est effectivement une agence de moyens qui nous aide beaucoup pour nos travaux. Eh bien, elle est en train maintenant de s'étendre là au virus émergent. Elle a été missionnée par le gouvernement justement pour prendre en charge aussi la recherche sur ces virus émergents. Donc ça montre bien qu'il y a une préoccupation de soutenir la recherche sur ces maladies infectieuses nouvelle, émergente ou réémergente.
Est-ce que vous pensez, Philippe Roingeard, que la communauté scientifique a pu avoir l'impression de ne pas être écoutée ou de ne pas être entendue ?
Il y a quelques personnes qui peuvent le ressentir, effectivement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a peu d'équipes de recherche qui travaillaient sur les coronavirus. Ça restait quand même un domaine un peu restreint. Je vous ai parlé des deux épisodes, l'épisode du SARS-CoV-1, donc c'était déjà en Chine, début des années 2000, et puis à peu près 10 ans le MERS au Moyen-Orient. Bah, ça n'avait pas beaucoup diffusé sur la planète, ça avait effectivement causé le décès de quelques centaines de personnes, pas plus. Ça avait très peu diffusé en fait. Donc voilà, de fait, par rapport à des virus comme le sida, comme les hépatites virales, et même après Zika, la dengue et chikungunya, où il y a eu quand même des diffusions massives de ces virus, si vous voulez, bah, il y avait assez peu d'équipes qui s'intéressaient au coronavirus. Alors ces gens-là peuvent effectivement maintenant, et d'ailleurs ils l'ont fait, hein, ils ont regretté, ils ont dit, ben, bon, nous on n'a pas assez soutenu nos recherches, et ils ont raison de le dire. D'un autre côté, ils n'étaient pas très nombreux. Là, pour le coup, ça change beaucoup les choses, hein. Je pense que tous les laboratoires de virologie du monde entier s'intéressent, ont développé des programmes sur le coronavirus. Si vous voulez, ça a pris une telle importance que ça ne peut pas être autrement. Mais sans délaisser les autres non plus, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les autres virus. Les choses sont en train de bouger. Alors évidemment, on peut se dire pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt. Ben, je vous dis, je pense que même si nous, les virologistes, on avait bien conscience que ça pouvait arriver un jour, ce franchissement de barrière d'espèce, personne ne pouvait imaginer que ça aurait cette importance-là. Ça a été extrêmement surprenant. Ça l'est toujours d'ailleurs.
Eh bien, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette Méridienne Philippe Roingeard. On va écouter un peu de jazz. Alors, peut-être pas celui que vous préférez, mais on va écouter Hadouk Trio. Voilà, c'est l'album Bal d'Amor.
Thank you.
Trio sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Alors Philippe Roingeard, il me semble que vous êtes fan de jazz et même que vous avez fait autrefois, vous avez fait une émission de jazz à la radio.
Oui, c'est vrai, c'est ce que j'évoquais en arrivant ici dans le studio, c'est que ça me rappelait des souvenirs quand j'étais étudiant. Je travaillais, enfin mes heures perdues hein, pour le plaisir. Dans une radio qui s'appelait Radio Cactus et qui émettait à Tours. Et j'animais une émission de jazz. Ouais, ça rappelle des bons souvenirs. Ce qui était amusant, c'est que c'était. Bon, ça date un petit peu. C'était avant 1980, avant que les radios soient libres. C'était un peu des radios pirates à l'époque. C'était encore plus rigolo de faire ça quand on savait que c'était interdit. Enfin, après, on ne diffusait que des choses qui ne posaient pas de problème, notamment l'émission de jazz et puis plein d'autres choses. Mais voilà, c'était vraiment le plaisir de faire de la radio. Oui.
Qu'est-ce qui vous amusait dans cette idée de faire de la radio clandestine, enfin plus ou moins ?
Ben, moi, je faisais partager mon plaisir d'écouter de la bonne musique, du jazz, tout simplement. Tout simplement, voilà, j'écoutais énormément de musique à l'époque, toujours d'ailleurs, hein, mais et j'avais envie de faire partager ce plaisir d'écouter de la bonne musique.
Vous écoutez de la musique quand vous travaillez, d'ailleurs ?
Oui, toujours.
Ah.
Toujours, moi, je peux pas me passer de musique, toujours, toujours. Alors j'écoute de la musique cool avec il faut pas que ça chante. Généralement le mieux c'est d'écouter de la musique que je connais très bien parce que c'est comme voilà c'est ça berce finalement le cerveau je dirais. C'est plus difficile si c'est une musique que je connais pas. C'est mais de toute façon j'ai dû avoir quelques centaines de disques mais c'est un peu toujours les mêmes que j'écoute. Et c'est des musiques dont je peux pas me passer et j'écoute ça quasiment en permanence, oui.
C'est un accompagnateur d'esprit, alors ça.
Absolument, oui, absolument, absolument. Bon, j'écoute pas ça au labo quand je travaille, hein, mais c'est chez moi le soir. En fait, on fait beaucoup. Quelquefois, on en fait beaucoup aussi chez soi quand on est chercheur, hein, parce que voilà, les journées sont finalement sans fin et on fait beaucoup de choses aussi au calme chez soi le soir, notamment écrire les publications. Écrire les projets de recherche, ce dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, peut-être que l'esprit continue de tourner de toute façon.
Toujours, quand on est chercheur, c'est je dirais que c'est H24. Parce qu'on a toujours l'esprit qui tourne et on se pose des questions. Oui, quelquefois c'est le soir comme ça ou pendant le week-end qu'on a une idée d'un projet, une idée à tester au laboratoire et voilà c'est oui on y pense un peu tout le temps.
Alors comment on fait? On a un bloc-notes à portée de main pour
ouais tout à fait absolument pour le bloc-notes c'est plutôt un MacBook mais bon ça revient un peu au même ouais.
Voilà c'est plus moderne peut-être. Et alors en fait de réflexion, vous appartenez à de nombreuses instances scientifiques et de gestion de recherche. Alors, voilà, membre du conseil scientifique de l'université de Tours, membre du conseil national des universités sous section de biologie cellulaire et encore quelques autres. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer, Philippe Roingeard, en quoi ça consiste ce conseil scientifique de l'université de Tours ?
Alors ça, je n'y suis plus. J'y étais pendant des années. Maintenant, je siège au conseil d'administration. C'est autre chose. Mais j'ai d'excellents souvenirs, effectivement, du conseil scientifique. Le conseil scientifique, c'est un conseil avec des gens de l'université, mais qui viennent de tous les domaines. On a la chance ici à Tours d'avoir une université multidisciplinaire, hein, qui vont des sciences humaines et sociales à la médecine, en passant par la pharmacie, les IUT, enfin bon. Et donc siègent dans ce conseil scientifique des gens qui viennent de ces différents univers et qui réfléchissent à comment finalement avoir une politique scientifique à l'université, comment soutenir les équipes de recherche, comment faire que la recherche qui se fasse à Tours soit visible, elle soit On a beaucoup travaillé sur l'amélioration des partenariats avec les organismes. Ça, c'est hyper important que les équipes soient soutenues par les organismes comme l'INSERM, l'INRA, le CNRS, le CEA, parce que ça apporte des moyens supplémentaires. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ma propre équipe de recherche, si vous voulez, quand on est passé INSERM. C'est-à-dire, au départ, on était une équipe d'universitaires soutenue par l'université, et puis on a réussi à obtenir le label d'une équipe université et INSERM, et ça nous a permis d'avoir des moyens, des chercheurs, des ingénieurs qui sont à temps plein dans l'unité de recherche et qui apportent vraiment des ressources humaines importantes. Donc ça, c'est vrai pour d'autres équipes aussi, à l'université de Tours, avec l'INRA, avec le CNRS, et ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment des belles années, ouais, et puis ça m'a permis de rencontrer des gens qui viennent de ces différents horizons d'université. Quand on est, bon, moi je suis enseignant, je suis pharmacien, mais professeur à la faculté de médecine, j'enseigne la biologie. On est un peu cantonné dans sa composante, et là ça permet de s'ouvrir sur les autres composantes de l'université. C'est vraiment très riche, voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je siège au CA, au conseil d'administration. C'est plus technique, c'est plus administratif, mais c'est aussi intéressant parce que ça, finalement, c'est là que se discute toute la vie d'université. Et donc, c'est un rôle aussi important. Le conseil national des universités, c'est national, comme son nom l'indique. Oui, je m'occupe au niveau national de toutes les discussions sur l'évolution de ma discipline, qui est la biologie cellulaire. Et puis c'est un conseil où se font les recrutements des futurs professeurs, des futurs maîtres de conférences dans toute la France. Donc c'est le CNU, le Conseil national des universités, qui fait ça. Et moi, je le fais pour ma discipline, qui est la biologie cellulaire.
Et alors, sauf erreur de site, vous êtes aussi directeur d'une école doctorale.
Ça aussi, c'est ancien. Ça,
Ouais, dis donc, on nous ment.
oui, ça c'est. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai dirigé l'école doctorale de biologie santé, mais je suis toujours très très proche des écoles doctorales, puisque le président de l'université, Philippe Vandrix, m'a confié la vice-présidence en charge des écoles doctorales. Donc, vous voyez, vous en êtes pas loin quand même. C'est-à-dire que je m'occupe un peu de fédérer ces écoles doctorales. Alors, celle de biologie santé a été reprise par un collègue qui s'appelle Thierry Moreau, qui fait ça très bien. Mais il y a 4 autres écoles doctorales. Il y en a une en sciences des matériaux, une en mathématiques informatiques, pour faire court. Et puis, il y en a 2 dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et donc, on travaille avec tous ces collègues pour essayer de trouver une harmonisation des modes de fonctionnement quand on peut, mais aussi elles ont bien sûr quelques différences. Et puis on s'occupe d'essayer d'améliorer au mieux l'accompagnement des doctorants qui donc font leur thèse ici à l'université de Tours, tout au long de leurs études doctorales. Et on travaille en partenariat avec l'université d'Orléans, avec l'INSA Centre-Val-de-Loire, qui délivre aussi le doctorat. Donc on a fondé ce qu'on appelle un collège doctoral, où on réfléchit tous ensemble sur la façon d'améliorer l'accompagnement de tous ces doctorants tout au long de leurs études. Et ça, c'est vraiment passionnant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. J'ai effectivement pris beaucoup de plaisir à diriger une école doctorale, et maintenant à travailler. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement aux études doctorales dans toutes les facettes de l'université, avec toutes cette multidisciplinarité qui va des sciences humaines et sociales à la médecine.
Mais alors, est-ce qu'on peut expliquer aussi à quoi sert une école doctorale, comment un doctorant, en tout cas un aspirant doctorant, se retrouve dans telle école doctorale plutôt que dans telle autre? Est-ce qu'il y a des postes de doctorants à pourvoir, ou est-ce qu'on peut arriver soit avec une idée de thèse sous le bras? Comment ça marche?
Alors, c'est le labo dans lequel le doctorant fait sa thèse qui va finalement l'orienter vers telle ou telle école doctorale. Ils sont thématisés, bien sûr, et les laboratoires sont répartis dans les 5 écoles doctorales que nous avons ici. Évidemment, en fonction du domaine disciplinaire de ces laboratoires. Alors, bien sûr qu'on peut candidater à effectivement faire une thèse. C'est un petit peu différent entre le monde des sciences et techniques et de la santé, et puis les sciences humaines et sociales. Dans le domaine des sciences et techniques et de la santé, les écoles doctorales ont ce qu'on appelle des bourses de thèse. Et ils font un appel à candidature pour que les doctorants, les futurs, des aspirants doctorants, vous avez utilisé le mot, eh bien, candidatent sur un sujet de thèse et pour obtenir la bourse de thèse. Donc, effectivement, c'est ouvert, hein, et d'ailleurs, c'est bien que ça soit comme ça. Et puis, les responsables des écoles doctorales, en relation avec les directeurs des labos, les directeurs de thèse, eh bien, vont recruter le doctorant qui considère comme le meilleur sur le sujet qui va être mis en place pour que cette personne fasse la thèse. En SHS, il y a un petit peu la même chose, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font des thèses à côté. Il y a des enseignants du secondaire, par exemple, qui peuvent faire des thèses. Donc là, souvent, c'est des gens qui vont venir avec une idée et qui vont échanger avec un directeur de thèse potentiel pour conduire ce projet de thèse. Ça va prendre un peu plus de temps parce qu'ils ne sont pas à temps plein, bien sûr, sur la thèse. Mais voilà, ils peuvent faire une thèse de cette manière aussi.
Et si vous deviez refaire une thèse, vous choisiriez quoi comme sujet?
La virologie. La virologie, alors si je la faisais maintenant, je sais pas, je la ferais peut-être sur le coronavirus, oui. À l'époque, j'ai fait ma thèse sur le virus de l'hépatite B, mais c'était il y a quelques années. Il y a d'ailleurs toujours des choses à faire sur ce virus, hein. On travaille toujours là-dessus au labo, parce que, voilà, même si c'est un virus pour lequel il y a encore beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer les traitements. Ouais.
D'ailleurs, on peut lire dans un article de Le Monde de décembre 2019, donc il y a presque un an, voilà, où vous disiez « Je me battrai jusqu'à la fin de ma carrière pour le vaccin contre l'hépatite C ».
Oui, ça me tient à cœur, c'est vrai. Bon, après, je sais pas si j'ai dit ça, mais le journaliste a présenté ça comme ça, mais je l'ai peut-être dit, hein, parce que oui, parce que vous savez, l'hépatite C, oui, on a ce projet à tour de on a mis au point un vaccin contre l'hépatite C qu'on aimerait bien amener justement vers un développement industriel parce que ça nous tient à cœur. Et pourquoi je dis que je me bats? Parce que je rencontre beaucoup de gens qui pensent que finalement on n'a peut-être pas besoin d'un vaccin contre l'hépatite C, parce que maintenant il y a des traitements, il y a des molécules antivirales qui sont efficaces. C'est vrai, mais ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que ça ne résout pas tout, parce que effectivement, quand quelqu'un est dépisté comme positif pour le virus de l'hépatite C, on peut le traiter, on peut éliminer le virus, mais c'est loin d'être toujours le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui sont des porteurs chroniques du virus et qui l'ignorent et qu'on n'a pas dépisté. Alors, c'est peut-être moins vrai en France où il y a eu un gros travail de dépistage, mais il y a plein de pays où c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de porteurs chroniques. Il y en a 70 millions à peu près dans le monde qui sont porteurs chroniques et qui ne le savent pas, qui transmettent le virus à leur entourage. Et qui finalement vont développer des cirrhoses, des cancers du foie, voilà, au bout d'un temps. C'est un virus qui induit une infection qui est longtemps sans symptômes, jusqu'au moment où les gens vont développer des symptômes dus à l'agression continue du foie. Et donc, c'est très compliqué de les dépister parce que ça demande une logistique importante que certains pays n'ont pas, pour des raisons économiques souvent. Et donc, je me bats effectivement pour dire qu'on a besoin de faire de la prévention pour ce virus et que la prévention, ça passe par la mise au point d'un vaccin. Ouais. Et ça, j'y tiens. Et oui, je me battrai sans doute assez encore longtemps pour ça. Ouais.
Je vous propose de faire une seconde pause musicale dans cette méridienne et après laquelle nous parlerons de portraits de virus voyage au cœur des cellules. C'est un livre qui vient de paraître aux presses universitaires François Rabelais. Hein, c'est vous l'auteur de cet ouvrage?
Oui. J'ai bien été aidé par les PUFR, hein, les presses universitaires François Rabelais pour l'habillage, mais oui, c'est moi qui l'ai écrit, oui.
Voilà, donc on en parle dans cette méridienne après cette seconde pause musicale et nous allons écouter Thelonious Monk. Monk sur Radio Campus Tours, vous écoutez toujours La Méridienne. Alors, Philippe Roingeard, nous parlions avant cette pause musicale de Portrait de virus, voyage au cœur des cellules, un ouvrage que vous publiez aux presses universitaires François Rabelais. Alors, ce livre, c'est une plongée dans le monde des virus. Donc voilà, on découvre l'existence des virus. Déjà, c'est quoi un virus ?
Ah, ça c'est... sacrée question. Hein. Un virus, c'est un agent infectieux dont on se pose toujours la question de savoir si c'est un être vivant ou pas. Pourquoi ? Bah parce que tout seul, il peut pas se multiplier. Donc, il rentre pas tout à fait dans la définition d'un être vivant. Mais poser un virus sur une surface, et bah, il va rester là. Il va éventuellement durer pendant quelques temps, bon, peut-être pas très longtemps, ça dépend du type de virus, mais il y en aura toujours qu'un si vous revenez 2 heures, 3 heures, même plusieurs jours après. À la différence d'une bactérie qui est capable de se multiplier. Le virus, on dit que c'est un parasite cellulaire obligatoire, c'est-à-dire que pour se multiplier, il doit rentrer dans une cellule. Et le virus rentre dans une cellule, il se multiplie, quand il y a un virus qui rentre dans une cellule, il y en a des milliers de nouveaux virus qui sont synthétisés, qui vont ressortir, aller infecter d'autres cellules. C'est ça la force des virus, c'est qu'ils sont capables de se multiplier à très très grande échelle en rentrant dans des cellules. Et donc, ce livre s'appelle Voyage au cœur des cellules parce que justement, moi je suis un biologiste cellulaire qui travaille sur les virus. Donc moi je m'intéresse à la fois aux virus mais aussi aux cellules qu'ils infectent et ce qui se passe dans les cellules qu'ils infectent. Et je fais beaucoup de microscopie électronique notamment, parce que les virus c'est tout petit, il n'y a que les microscopes électroniques qui permettent de les visualiser. Et donc ce livre-là, je l'avais en tête depuis des années, il m'a fallu un peu de temps pour passer à l'acte, et puis voilà, je faisais ça un peu à mes heures perdues, donc ça n'a pas été... ça s'est étalé sur plusieurs années en fait. J'avais mis de côté toutes les plus belles images que j'avais pu faire de virus dans des cellules, pour faire ce que je peux appeler un beau livre, hein, sans prétention, mais parce que c'est un livre d'images avant tout. Les images ont été particulièrement bien mises en valeur par les gens des presses universitaires François Rabelais, les PUFR. Et puis j'ai écrit des petites légendes en face de chaque image pour expliquer aux gens ce que c'était qu'un virus, comment ils faisaient justement pour se multiplier dans les cellules, comment ils faisaient pour rentrer, comment ils faisaient pour sortir, comment les virus voyagent au cœur des cellules. Ouais. Et puis au passage, dans ces petits textes qui sont assez courts, qui sont écrits vraiment pour que ce soit compréhensible de tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas du tout dans la discipline, ni même dans la médecine, que les gens comprennent un peu pourquoi ces virus induisent des maladies lorsqu'ils induisent des maladies, et puis des petites anecdotes sur pourquoi on leur a donné tel nom, pourquoi ils ont telle forme, pourquoi. Il y a des formes assez remarquables, il y a des architectures virales dans les cellules lorsque les cellules sont infectées qui sont assez remarquables. Ça donne vraiment des photographies assez remarquables de structures. Très ordonné, c'est quand vous avez un virus qui se multiplie dans les cellules, des fois il y en a tellement que ça fait presque un cristal dans la cellule, tellement ces virus les uns à côté des autres, ça fait une structure d'ailleurs on parle d'une structure pseudo-cristalline. Donc c'est un livre que j'avais en tête depuis des années, puis il m'a fallu un petit peu de temps pour passer à l'acte, et puis pour faire ça petit bout par petit bout. Comme je le dis dans l'intro, j'étais loin d'imaginer quand j'ai commencé à travailler sur ce livre qu'il sortirait au moment d'une crise sanitaire comme celle qu'on connaît aujourd'hui due à un virus. Ouais.
Et alors, dans ces images, vous allez me dire si c'est exact, il y en a de plusieurs sortes, hein, là. Donc, vous expliquez aussi, il y a une page où vous expliquez qu'il y a différents microscopes. Donc, en fait, ça donne des rendus complètement différents sur les images qu'on voit dans le livre.
Oui, les microscopes électroniques, il y a deux grands types de microscopes électroniques. Il y a ceux qui permettent de regarder dans les cellules, c'est-à-dire qu'on fait des coupes et on regarde ce qui se passe dans la cellule. Ceux-là permettent aussi de regarder les virus lorsqu'ils sont en solution, dans un liquide. Ça donne aussi quelques images assez remarquables. Et puis, il y a des microscopes électroniques qui permettent de regarder ce qui est en surface des cellules. Et là aussi, ça fait des images assez intéressantes lorsqu'on voit le virus sortir de la cellule et qu'on a, comme si on était au-dessus de la cellule et qu'on avait la vue d'ensemble de la cellule avec tous ces virus qui sortent. Il y a des photos dans le livre, par exemple, du virus de la rage. C'est assez impressionnant. On dirait des obus qui pointent vers le ciel. Parce que le virus, c'est justement cette forme d'obus. Et ça fait des images assez remarquables. Ouais, Donc oui, il y a plusieurs types de microscopes électroniques et ils peuvent être utilisés pour générer des images. Et quelquefois, on peut voir le virus dans le livre, le virus par ces différentes approches de microscopie, on voit les différences que ça fait au cours des observations.
Alors, est-ce qu'on peut résumer microscope électronique à transmission, c'est des images plates, et microscope électronique à balayage, c'est les images en trois dimensions,
C'est
en
ça.
volume.
C'est exactement ça. La transmission, on étudie les électrons qui sont transmis à travers une coupe, justement. C'est pour ça que ça s'appelle la transmission. Donc, comme vous dites, c'est plat, c'est du deux dimensions. Et par contre, la microscopie à balayage, c'est un faisceau qui balaye, un faisceau d'électrons qui balaye. On étudie les électrons qui sont renvoyés par la surface qui est balayée. Et ça donne une image en 3D, effectivement. Oui. On a la vue d'ensemble de la cellule.
Alors, c'est-à-dire qu'avec ces images différentes, évidemment, vous ne cherchez pas à voir la même chose.
On n'a pas tout à fait la même information, non. On n'a pas la même information. La microscopie, lorsqu'on fait des coupes, donc à transmission, vraiment, on a le détail de ce qui se passe dans les cellules. On voit même ce qui se passe à l'intérieur de la particule virale. Quand elles sont assez grosses, on voit des structures internes à la particule virale. On voit ce qu'on appelle la capside, qui est une sorte de boîte qui contient le génome du virus, son enveloppe. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de détails sur ce qu'on a. La microscopie à balayage, on a moins de détails, mais on a la vue d'ensemble, on a la vue d'ensemble de la cellule. On voit par exemple, il y a une cellule en microscopie à balayage qui produit du virus du sida. On voit la quantité de virus qui bourgeonne, on voit des centaines de virus qui bourgeonnent à la surface de la cellule. C'est assez impressionnant.
Et alors ces images, hein, dans ce livre, c'est un format à l'italienne, je crois. On voit d'un côté, souvent, on a une légende, et de l'autre, sur la page en face, page en vis-à-vis, on a une de ces photos, une de ces images que vous avez produites, Philippe Roingeard, et ces images, elles sont colorisées. Enfin, certaines sont colorisées. Alors, on imagine bien que les virus ne sont pas de toutes ces couleurs-là. Donc, c'est obtenu comment ?
Ben, c'est artificiel. Vous avez tout à fait raison. La microscopie électronique, ça génère des images en noir et blanc. Et donc les puristes, je suis plutôt un puriste, moi j'avais toujours plutôt l'idée de toujours fournir des images en noir et blanc, et puis en discutant avec les gens des PUFres, ils m'ont dit « Ah, ça serait quand même bien pour le grand public d'avoir de la couleur », et ils ont tout à fait raison. Bon, ça c'est des trucs que j'ai pu vérifier aussi au cours des années, lorsque j'ai fourni des images à des journalistes par exemple pour illustrer des articles. Ils m'ont toujours demandé pourquoi c'était pas en couleur. Bon, alors je leur ai expliqué que la microscopie électronique c'était pas en couleur, mais ça, je voyais bien que ça leur donnait pas satisfaction. Et puis j'ai fini par me laisser convaincre d'en coloriser certaines, et puis au fur et à mesure, bon, en faisant les choses bien. Alors c'est là où je dis qu'effectivement, ça j'y ai passé des heures par contre à écouter la musique le soir et à coloriser mes petites photos. Ça prend énormément de temps. Après, ça apporte, je pense, quelque chose dans la mesure où, dans ce livre, j'ai voulu que les images soient telles quelles, sans flèches, sans astérix, pour dire bah, il y a telle structure là. Donc je me sers aussi des couleurs pour expliquer aux gens, bah, vous voyez, le virus il est fait comme ça, il y a son enveloppe de cette couleur, il y a sa capside, ce que vous voyez en couleur, ça représente ça. Donc ça m'a aidé aussi. Et puis finalement, bon, je pense que c'est... Pour un livre grand public, pour attirer les gens, justement. Moi, l'idée de ce livre, c'était... C'est pas un livre de virologie classique, hein, c'est attirer les gens vers cette science-là, au regard de belles images, et que, voilà, il y a quand même un petit texte à côté pour expliquer un peu ce que ça représente. Et pour les attirer, je pense que la couleur était importante. Mais j'ai tenu à le faire moi-même, c'est-à-dire que, voilà, j'ai tenu à choisir moi-même les couleurs, à les coloriser. Alors il y a différents types, soit c'est une couleur, c'est un monochrome en fait, mais soit effectivement il y a du détail avec des couleurs différentes pour expliquer un petit peu justement au lecteur ce que ça représente.
Alors comment on fait cette colorisation? Comment ça marche?
Ah ben, je fais ça à l'ordinateur, c'est-à-dire avec un logiciel qui permet je sélectionne moi-même les contours à la souris, si vous voulez, puis je modifie la couleur avec un logiciel de base d'image. Et donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Rien n'est fait automatiquement, quoi. Ça prend un temps fou.
On peut imaginer peut-être une exposition des images.
Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement. Ça pourrait avoir ça pourrait avoir du sens de faire ça. J'ai pas pensé, mais c'est une bonne idée, oui, tout à fait.
Voilà, donc Oyer, pour la fête de la science 2021, voilà, on peut imaginer une exposition des images de cet ouvrage.
On peut.
Voilà, donc c'est à mettre entre toutes les mains, hein, puisque comme vous le disiez, c'est fait pour tous les publics, pour tous les... Tout le monde peut lire cet ouvrage. Et alors, ce qui est fantastique, c'est qu'on découvre aussi le nombre de virus. Voilà, il y en a vraiment plein de sous-espèces. Je ne sais pas si on peut dire des sous-espèces de virus, mais en tout cas...
Des familles. On parle de familles de virus. Et encore, ils n'y sont pas tous, hein, parce que, comme je le dis dans le livre, il y a ceux que j'ai rencontrés, si je peux dire les choses comme ça. Je ne les ai pas tous rencontrés. J'en ai rencontré beaucoup, mais il y en a d'autres encore. Hein. C'est pas un catalogue de tous les virus, hein. C'est une sélection de belles photos du virus sur lesquels j'ai travaillé. Et ça représente effectivement quelques dizaines de virus. Oui.
D'ailleurs, on découvre aussi qu'il y a des virus qui peuvent infecter des cellules animales ou humaines, mais qui ne sont pas nocifs, en fait, qui ne sont pas forcément dangereux pour l'homme.
Ah oui, tout à fait. Il y a même des virus qui sont utilisés pour ce qu'on appelle la thérapie génique, puisque le virus, c'est vraiment un professionnel, si on peut dire, de rentrer dans une cellule. Hein. C'est son principe. Donc, on peut l'utiliser pour faire rentrer des gènes dans des cellules, pour corriger des gènes qui sont défectueux chez une personne, ce qu'on appelle la thérapie génique. Et donc, certains virus sont utilisés pour ça. Donc, certains virus sont bienfaiteurs, au contraire pour l'homme.
Est-ce qu'il y a des équipes de recherche d'ailleurs qui travaillent en thérapie génique à Tours?
Non, pas à Tours. Il y a des collègues à Nantes qui font beaucoup de thérapie génique avec des virus, mais il n'y en a pas d'équipe à Tours qui fait ça, qui font ça.
Bon, eh bien on pourra toujours se renseigner. Et il se trouve aussi que cet ouvrage, il a une préface. Voilà, c'est Christian Bréchot qui préface votre ouvrage. Alors, qui est-ce?
Christian Bréchot, c'est un collègue donc qui a beaucoup travaillé sur les hépatites virales. Il était dans mon jury de thèse, il était dans mon jury d'HDR, l'habilitation à diriger les recherches. Donc c'est quelqu'un dont je suis proche. C'est quelqu'un qui a fait une très 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 grande carrière parce qu'il a été directeur de l'INSERM. Il a été directeur de l'Institut Pasteur. Donc quelqu'un qui a une grande grande aura scientifique. Et puis maintenant. Il est professeur à l'université de Floride, à Tampa. Et donc on est resté toujours très proches et il m'a fait l'amitié d'écrire quelques lignes pour la préface de ce livre.
Alors cet ouvrage, c'est aussi une... Est-ce qu'on peut dire que c'est une action de médiation? Vous considérez que c'est de la médiation scientifique?
Ah bah tout à fait. Pour moi, c'est un livre. Alors j'aime pas ce terme de vulgarisation scientifique. Vous avez raison d'utiliser médiation, diffusion de la culture scientifique. Je dirais oui. C'est pour moi, c'est faire connaître la science au grand public. J'espère que j'y suis arrivé, que les textes sont pas trop compliqués. En tout cas, j'y ai veillé. Comme je disais, bon, l'idée c'était d'attirer les gens par des images et puis avec des textes assez simples. J'espère que j'y suis arrivé, mais c'est exactement oui ce que je voulais faire en tout cas.
Voilà. Donc, à votre avis, c'est une mission importante, peut-être des chercheurs?
C'est ce que je dis toujours. Là, on est financé, nous, dans les labos publics, par de l'argent public. Et c'est la moindre chose, c'est qu'on rende des comptes à la société en leur expliquant ce qu'on fait, en leur expliquant ce qu'est la science, en leur expliquant effectivement, bah, dans le cas là, ce que sont les virus et pourquoi certains causent des pathologies. Non, pour moi, c'est extrêmement important. Moi, dans mon labo, on a aussi cette culture, hein, de participer autant que possible à des actions de diffusion de la culture scientifique. On fait venir des lycéens dans le labo. On a des jeunes doctorants qui vont dans les lycées aussi, on le fait beaucoup, beaucoup.
Voilà, et vous venez même sur Radio Campus Tours dans la Méridienne. Merci beaucoup Philippe Roingeard de nous avoir accordé du temps pour parler de votre parcours et de cet ouvrage Portrait de virus, voyage au cœur des cellules, paru aux presses Université, pardon, François Rabelais. Alors cette émission touche déjà à sa fin. Merci encore.
Mais c'était avec plaisir.
Et on va se quitter, chers auditeurs, en écoutant encore du jazz. On va écouter Michel Portal, Burundi. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos moins excellents programmes. Cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et en podcast sur notre site www.radiocampustour.com.